Suivez Priorité Santé avec Suno Assurance et soyez couverts en cas de maladie, de perte ou de vol de bagages durant vos voyages.
Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. La douleur, c'est plus qu'un symptôme, c'est un enjeu de santé publique. Et quand cette douleur reste présente, au-delà de la prise en charge initiale, lorsqu'elle répond mal au traitement, envahit le quotidien du patient, on parle de douleur chronique. Ces douleurs réfractaires ou rebelles durent des mois, des années et se révèlent souvent complexe à prendre en charge. Si la douleur aiguë peut être utile pour alerter, cette souffrance au long cours altère la qualité de vie et appelle une réponse. Des douleurs parfois liées à certaines maladies, à des interventions chirurgicales ou à des accidents, mais aussi à des troubles sans lésions identifiées. Si ses origines et ses mécanismes peuvent être multiples, les axes de prise en charge, eux aussi, peuvent se décliner au pluriel. C'est d'abord un travail d'écoute, de compréhension, d'écrire les sensations, les émotions, identifier le contexte, évaluer s'il existe des facteurs favorisants en termes d'âge, de genre, et quand les douleurs persistent, prendre en compte le retentissement sur la qualité de vie générale, le sommeil, le lien social, professionnel, la santé mentale. Comprendre et soulager les douleurs chroniques, c'est aujourd'hui dans Priorité Santé. Décomposer la douleur pour la soulager, la décrypter pour trouver des solutions pour en finir avec l'errance thérapeutique, c'est ce que vous allez nous expliquer au cours de cette émission. Docteur Lola Ranaï-Vosson, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin spécialiste de la douleur au Centre d'évaluation et de traitement de la douleur de l'hôpital Ambroise Paré à Boulogne-Billancourt en région parisienne. On va retrouver tout à l'heure de la Côte d'Ivoire la professeure Constance Yapo, elle est neurologue neuropédiatre au CHU de Cocody Abidjan. Professeure Yapo qui est aussi maître de conférence agrégée à l'UFR Sciences Médicales, toujours à Abidjan. Et puis en fin d'émission, coup de projecteur sur la toute première édition de la Coupe du Monde de simulation pédiatrique. Ça se passe à Marrakech, au Maroc. Ça commence demain, ça dure jusqu'au 6 juillet. À l'origine de cet événement, la professeure Nadia El-Idrissi-Slitine. Elle est spécialiste en cardiologie pédiatrique, néonatologie, directrice du centre de simulation à la fac de médecine et de pharmacie de Marrakech. On va lui donner la parole.
Priorité Santé sur RFI.
Et bien sûr, si vous avez des questions, notre numéro WhatsApp, c'est le 33 7 71 18 46 41. Alors, ça intéresse tout le monde, la douleur, hein, parce que chacun, chacune a rencontré un jour ou l'autre dans sa vie cette sensation particulièrement embêtante, voire envahissante. Pour bien fixer les choses, pour commencer, il va être question de douleurs spécifiques. Ces douleurs chroniques, réfractaires, rebelles, il y a pas mal d'adjectifs hein, pour la décrire. Bref, ce qui s'installe dans la durée, docteur Lola Ranaï-Vosson, quelle différence avec la douleur aiguë? Parce qu'il y a bien sûr une douleur utile, celle qui nous prévient qu'il y a un danger.
Bien sûr. Effectivement, la douleur aiguë, c'est vraiment différent de la douleur chronique. La douleur aiguë, c'est une alarme qui est vital pour nous. On ne peut pas imaginer, par exemple, une appendicite sans douleur. On en mourrait, puisqu'on ne saura pas. Donc la douleur aiguë, c'est une alarme nécessaire. Elle est particulièrement dépendante de la cause. Hein. Plus la cause est importante, plus elle est sévère, la douleur. Hein. On traite la cause, la douleur aiguë va s'améliorer. Ce n'est pas le cas de la douleur chronique. La douleur chronique, c'est une douleur qui dure, qui peut durer parce qu'il y a une lésion, une maladie responsable de douleur qui n'a pas été bien traitée. Mais quand bien même, cette douleur sera disproportionnée par rapport à la cause. Il y a même des douleurs sans cause.
Mais il y a des maladies vraiment, on pense à après certains cancers, quand il y a eu des traitements, il y a des douleurs qui s'installent, voire même il y a des maladies dont le symptôme numéro un au long cours, des maladies qui ne se guérissent pas, c'est la douleur, je pense en particulier à la sclérose en plaques. Ça veut dire que là, la douleur, elle est chronique, mais elle est traitable?
C'est-à-dire que la douleur chronique traitable, c'est le but du traitement d'une douleur chronique, c'est vraiment essayer de la faire diminuer pour améliorer la qualité de vie. Parce que cette douleur chronique impacte sur la vie. C'est vraiment une altération majeure de la qualité de vie sur le plan professionnel, personnel. Et donc, le but du traitement de la douleur chronique, c'est vraiment essayer... On peut ne pas arriver à avoir douleur zéro. Hein. Le but, c'est vraiment d'améliorer la qualité de vie.
Ça veut dire qu'on peut aussi apprendre à vivre avec certaines douleurs. Pas toutes les douleurs, mais avec certaines douleurs.
Oui, et puis surtout, comprendre pourquoi elle est là, c'est très important. Comprendre qu'une douleur chronique ne sert à rien. Ça altère la vie, mais elle ne sert à rien.
Donc, je serre les dents, c'est pas la bonne méthode.
Non, c'est très important de faire comprendre aux gens. On appelle ça l'éducation neurosciences. On explique aux patients la physiologie de cette douleur. Pourquoi cette douleur chronique? Pourquoi ça dure depuis des années? Et le fait de leur expliquer quels sont les facteurs qui l'entretiennent, ça permet vraiment de donner une adhérence au traitement. Les gens comprennent.
Est-ce que c'est aussi, d'après vous, docteur Anaïs Vosson, le premier pas du soulagement? La compréhension.
Mais bien sûr. Il y a eu des études qui ont été faites par rapport à cette éducation neurosciences. Ces études ont montré que les patients qui participent à cette éducation, nous on fait des réunions mensuelles d'éducation de la physiologie de la douleur, et là, ça suffit largement d'améliorer le patient. J'ai des patients qui me disent, mais docteur, moi j'ai compris maintenant. J'ai compris.
On sait où on va. Dans votre pratique, vous prenez en charge des douleurs bien particulières en termes d'anatomie, en termes de public et de cible?
Non, c'est vraiment... Nous, on prend en charge notamment l'hôpital Ambroise Paré, tous les centres de douleurs. C'est polyvalent. C'est des douleurs... toutes les pathologies. Bon, j'ai une expertise particulière sur les douleurs pelviennes, mais on prend toutes les pathologies voilà.
Sur ces douleurs pelviennes, il y a une dimension de genre qui intervient. Vous prenez en charge davantage de femmes?
Oui, davantage de femmes et maintenant de plus en plus d'hommes aussi, parce que la douleur pelvienne concerne l'urologie, le digestif, la gynécologie. Ça peut concerner tout à fait les hommes avec les problèmes de prostate, d'intervention.
Je pense à l'anatomie, à l'intimité. Est-ce que du fait qu'il y ait des tabous autour de cette sphère qu'on dit urogénitale, ça fait que les douleurs sont tues longtemps, elles sont cachées, il y a le silence, ce qui va entretenir encore cette douleur.
Complètement. Ça, c'est connu. Vous savez, par exemple, on parle beaucoup de l'endométriose. Ce sont des douleurs qui sont diagnostiquées après 7 ans d'errance thérapeutique.
On parle beaucoup au présent, parce qu'au passé, on n'en a pas beaucoup parlé. On est en train de commencer à en parler beaucoup.
Absolument.
Les choses
changent. Heureusement. Heureusement, parce que moi j'ai connu des personnes. Moi, j'étais réanimatrice avant, donc j'ai changé de spécialité. Et j'ai connu une personne âgée qui a tenté de se donner la mort à cause d'une douleur pelvienne dont elle avait honte d'en parler.
Donc, il faut sortir du silence. Quand on prépare une émission sur la douleur, on voit qu'il y a une classification des douleurs en fonction de l'origine pour bien les décrypter. Est-ce que c'est utile, ce genre d'outil, pour les patients, ou est-ce que c'est des questions qui intéressent seulement les médecins?
Non, c'est en fait, pour prendre en charge une douleur, il est important de l'évaluer. Déjà, le mécanisme, parce que le traitement dépendra du mécanisme. Il y a plusieurs types de douleurs, des douleurs liées à des lésions, nerfs, de lésions d'organes. Donc, il faut les repérer et évaluer les fonctions, les facteurs qui entretiennent cette douleur, qui favorisent cette douleur. On dit classiquement que la douleur a 4 composantes. Une composante émotionnelle, par exemple la tristesse, la colère, une composante sensorielle, ce que ressent le corps, ça brûle, ça serre fortement, ça fait des décharges électriques, une composante cognitive, c'est-à-dire les pensées, la croyance, qu'est-ce que cette douleur, vous savez, et puis la composante comportementale. À cause de la douleur, je ne bouge plus, je ne sors plus. Donc tout ça, il faut évoluer parce que toutes ces composantes vont influencer sur le ressenti de la douleur.
Et on peut imaginer qu'elles s'auto-entretiennent. Quand on vient vous voir, les gens disent quoi? Donnez-moi un cachet, aidez-moi. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les gens?
Non, d'abord, ils disent que la plupart des médecins ou leur entourage ne voient pas la douleur, ne croient pas à leur douleur.
Ils n'ont pas été écoutés jusque-là.
Absolument. On dit que c'est un handicap invisible. Ils ne sont pas écoutés.
Est-ce que ça veut dire aussi qu'il y a pas mal de soignants qui ont aussi du travail à faire? Quand je dis ça, je ne critique pas du tout le métier, mais je dis simplement qu'il y a un apprentissage. La formation, c'est pour tout le monde. Changer un petit peu le regard sur la douleur.
Mais bien sûr. Et ça, ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé depuis une dizaine d'années. Et puis, on donne beaucoup de formations aux médecins de ville parce que la douleur chronique, c'est en fait une entité qu'on n'a pas beaucoup appris dans notre cursus. Médicale. Maintenant, les jeunes.
Mais même la douleur chronique et la douleur en général, il y a beaucoup de travaux sur la douleur pédiatrique. On disait un enfant qui a mal, il n'a pas vraiment mal. Une femme qui accouche qui a mal, finit l'accouchement. Ça ira. On a quand même changé vraiment considérablement de regard.
Totalement.
Même si, bien sûr, dans un certain nombre de pays, tous ces traitements de la douleur restent totalement inaccessibles et hors de portée.
Absolument.
Ça veut dire qu'on va aussi aller vers le non médicamenteux.
Absolument. Vous allez voir, le traitement de la douleur chronique est un traitement multimodal et pluridisciplinaire. Ça veut dire que le tiers de la solution, ça va être les médicaments. Donc, un médicament ne pourra jamais suffire. C'est pour ça que les gens qui sont traités en ville, souvent, ils n'auront que des médicaments. Donc, ça ne marche pas, forcément. Après, il faut traiter ce corps, hein, le corps qui, si vous voulez, le problème du corps, c'est que toutes les zones qui souffrent du corps vont se contracter et la contracture musculaire entraîne de la douleur, donc c'est un cercle vicieux. Hein. Un corps qui ne bouge plus, je ne sors plus, j'ai mal, je ne sors plus, eh bien, ça sensibilise les muscles et ça entraîne de la douleur. Et puis, le corps aussi ne fait pas la différence entre la douleur aiguë et la douleur chronique. Pour lui, il y a une douleur, il y a un danger. Donc, il va augmenter les messages pour le cerveau. Parce que la sensation de la douleur, en fait, dans notre cerveau, provient de messages qui viennent de la périphérie véhiculés par les nerfs. Et donc ces nerfs reçoivent des messages du corps, tout le corps, les os, cartilage, l'intestin, la peau, les viscères. Et les messages, quand il y a des lésions, des contractures, des lésions, ils sont véhiculés par les nerfs, emmenés jusqu'au cerveau. Et là, ça va déclencher une douleur. Mais le déclenchement de cette douleur n'est pas du tout, j'ai une lésion, ça va donner telle douleur. La douleur, vous avez remarqué que tout le monde ne va pas ressentir la même douleur pour une même cause. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la matrice cérébrale de la douleur, c'est-à-dire qu'il y a des zones du cerveau qui gèrent, par exemple, le système limbique, il gère l'émotion, l'anxiété, le stress, le cortex frontal qui va gérer les pensées. Donc, tous ces facteurs, ces composantes vont influencer sur le ressenti de la douleur.
Et donc, il faut oublier une expression, c'est dans ta tête. Parce que oui, tout est dans notre tête. C'est vrai qu'il y a le neurologique et il y a aussi le psychique. J'imagine que il y a des personnes qui arrivent jusqu'à votre consultation, docteur Anaïs Vosson, avec des troubles psychiques qui, à l'origine, ont une douleur non soignée.
Oui, parce que la douleur, en fait, entraîne des modifications de notre système qui gère la douleur, le système neurosensoriel. Hein, ça s'appelle la neuroplasticité. On le voit à l'IRM, il y a carrément une modification du cerveau. Hein. Notamment, on voit une diminution, le poids de l'hippocampe diminue par exemple. L'hippocampe, ça sert à sécréter ces molécules qui aident le cerveau à freiner la douleur. Vous voyez ?
Donc, qu'un patient vient vous dire ? Il dit, un médecin m'a dit, c'est dans ma tête. Qu'est-ce que vous lui dites de répondre à ce médecin ? Parce que c'était encore le cas récemment dans une de nos émissions, c'est dans ta tête. Qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là ?
Eh bien, moi, je dis dans ces cas-là, c'est dans la tête, dans le sang, c'est pas volontaire. C'est votre cerveau qui travaille. En fait, nos cerveaux, il a ce qu'on appelle la modulation. Il y a une modulation de la douleur, vous voyez, et notre cerveau est capable de freiner la transmission de cette douleur. Il est capable aussi d'accélérer.
C'est vrai qu'on dit qu'il y a certaines personnes qui sont dures au mal, notamment parce qu'elles ont eu des maladies chroniques douloureuses et que finalement, elles ont moins de sensibilité parce que sinon, ce serait intolérable aussi. Une façon de gérer cette douleur.
Oui, mais il y a aussi, ce qui est important de comprendre, c'est que cette modulation, ce contrôle inhibiteur de la douleur par le cerveau, il va faire ça grâce à des neuromodulateurs qu'on appelle la sérotonine, la noradrénaline, la dopamine, l'endomorphine. Et il faut savoir aussi que le cerveau va utiliser ces molécules pour nous aider à faire face à toutes les situations qui nous étaient difficiles à vivre sur le plan psychologique. Donc, nous, à chaque fois qu'on voit un patient, la première fois, on leur demande leur antécédent de vie. Pourquoi ? Parce qu'on arrive au monde avec un stock de ces neuromédiateurs et en fonction de ce qu'on a vécu, on entame plus ou moins nos stocks. Donc ça s'appelle des facteurs de vulnérabilité, de développer des douleurs chroniques. Heureusement qu'on peut en refabriquer parce que sinon on ne serait pas là. Hein. La vie, c'est pas tranquille. Hein, d'accord ? Donc on en fabrique comment ? Quand on se fait du bien. On se fait plaisir, on fait des séances de loisirs, on reçoit de l'amour, donc on en fabrique. Et quand on en fabrique, même si on a des antécédents de vie catastrophiques, on arrive en équilibre. Mais cet équilibre, elle est fragile. Donc il suffit soit d'une douleur qui dure, soit d'un problème émotionnel, un deuil difficile, une rupture, un harcèlement. Et là, l'équilibre se rompt et là, paf, le cerveau n'arrive plus à faire le frein et la douleur flambe.
Donc on essaye de ménager ce capital anti-douleur. On va poursuivre notre échange.
Absolument.
Docteur Anaïs Vosson, en donnant la parole à des auditeurs de l'émission, bien sûr des auditrices, on va retrouver l'une de vos consœurs en Côte d'Ivoire. On se retrouve juste après ce titre de Gaz Mawete Yalevis dans Priorité Santé, c'est K.O.
bondeli, a bondeli, olivia. Azo bondela, ka bondela, baby. Chérie, je suis KO, KO, KO. Bote na yo, na yo, na yo.
Priorité santé sur RFI, on parle aujourd'hui des douleurs chroniques, en comprendre les mécanismes, l'histoire des patients, l'impact sur la qualité de vie. Toujours avec le docteur Lola Ranaï-Vosson, médecin spécialiste de la douleur au Centre d'évaluation et de traitement de la douleur de l'hôpital Ambroise Paré à Boulogne-Billancourt, qui dit douleur, dit parfois antalgique. Est-ce que certains de vos patients sont confrontés à la dépendance aux médicaments? Et de fait, c'est quelque chose que vous devez prendre en compte?
Alors, la dépendance, ça peut arriver, mais tout dépend des médicaments, hein, de la famille. La dépendance, concerne surtout les produits morphiniques. Mmh. Là, parce que les produits morphiniques, si vous voulez, ça entraîne ce qu'on appelle un phénomène de tolérance, c'est-à-dire que pour avoir les mêmes effets, on est obligé d'augmenter les doses. Et aussi, le phénomène de dépendance, c'est-à-dire qu'il y a une dépendance psychique, le patient a absolument besoin de prendre ce médicament. Donc, vraiment, la dépendance dépend de la molécule.
De la molécule qui va être prescrite. Tout de suite, les questions en direct.
RFI à Yaoundé.
Et au Cameroun, on retrouve donc Pierre. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Alors parlez bien près du téléphone Pierre, vous avez 46 ans, une douleur tenace qui remonte à loin, ça s'est intensifié récemment. Au départ, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que vous avez été soigné, s'il vous plaît?
Bonjour Caroline. J'ai subi un accident de circulation il y a de cela 36 ans.
Oui.
C'était en 89.
En 89.
Oui. J'ai eu une luxation de l'épaule.
Mmh.
J'ai été pris en charge directement avec la réduction de la luxation. Et j'ai été soumis bien après à des séances de kiné.
Des séances de kiné, des médicaments. Aujourd'hui, est-ce que la douleur est toujours présente?
Oui, la douleur est toujours présente et pendant les 36 ans, elle n'était jamais partie, elle devrait revenir de temps en temps.
Oui.
Mais cette fois-ci, elle s'est installée vraiment, je dirais, définitivement. Et là, je suis reparti à l'hôpital consulter.
Oui.
Après l'échographie, on m'a dit que c'était une tendinite.
Mmh.
Et là, on m'a soumis à un autre traitement qui faisait partie. Il y avait un anti-inflammatoire, une pommade anti-inflammatoire également.
Oui.
Et la pose des glaçons 4 fois par jour.
Des glaçons sur la zone douloureuse.
Voilà.
Est-ce que ça va mieux depuis que vous avez engagé tout ça en même temps?
Non, pas du tout. Effectivement, c'est pour cela que je profite de l'occasion pour savoir pourquoi cette douleur n'a jamais disparu depuis 36 ans.
Oui.
Oui.
Eh bien, Pierre, question extrêmement intéressante. Bien évidemment, à distance, sans vous voir, sans vous examiner, c'est impossible de donner un diagnostic, sinon ce serait vraiment magique la radio. En tout cas, il y a peut-être des éléments d'explication, docteur Lola Ranaï-Vosson. Une épaule luxée, 18 ans de douleur, une sensation désagréable qui ne l'a jamais quittée, mais cette douleur, elle a été ravivée. Et il aimerait avoir des explications, et c'est tout à fait naturel de vouloir des explications après tout ce temps.
Bien sûr, bonjour Pierre, bien sûr. Donc votre cas illustre bien ce que j'ai expliqué tout à l'heure, hein, cette douleur qui dure. Vous avez parlé, donc cette douleur c'est depuis, vous aviez 28 ans hein, quand vous l'aviez eue. Et vous avez également parlé de revivissant de cette douleur à chaque anniversaire. Donc là ça illustre bien hein, l'impact des facteurs émotionnels par rapport à la douleur. Et donc la douleur, là, elle devient complètement permanente. Et là, c'est pareil aussi. Hein, ça illustre le fait que quand la douleur dure, le système de la douleur dysfonctionne complètement et va vous donner cet état, on appelle ça d'hypersensibilisation. Mmh. Hein, c'est-à-dire que vous avez, le corps va donner beaucoup de messages à votre cerveau. Votre corps, pareil, toutes les zones qui souffrent vont se contracter et la contracture musculaire va donner de la douleur. Donc, d'où l'importance de la kinésithérapie, de maintenir les mouvements. Là, on vous a découvert une tendinite. Donc, du fait de cette sensibilisation, en fait, votre corps a un seuil de douleur qui est très, très bas. C'est-à-dire que une lésion qui ne donnerait pas de douleur à une personne quelconque va pour vous être responsable d'une douleur de forte intensité. Mmh. De par le fait que vous avez eu des douleurs qui durent depuis longtemps. Donc
il est devenu hypersensible.
Voilà.
Donc le conseil, donc continuer la kiné, il y a peut-être quoi d'autre comme
continuer
conseil à lui donner?
Continuer la kiné. Surtout, j'avais parlé des facteurs émotionnels et cognitifs, les pensées qui impactent sur la modulation cérébrale de la douleur. Le cerveau qui est anxieux, qui est focalisé sur la douleur, qui se dit « qu'est-ce que je vais devenir ? Ça va jamais ?» qui ne pense qu'à cette douleur. Si je bouge, je vais avoir mal. L'anticipation négative. Tout ça, ça majore la douleur. Alors l'idée, c'est de vraiment se défocaliser de cette douleur, se dire « bien sûr, il faut vraiment soigner cette tendinite. Hein. » Et après, il faut ne pas faire de la relaxation, ne pas penser à cette douleur, bouger. Ça, c'est très, très important.
Donc, le facteur psychique est essentiel.
Absolument.
Pour Pierre. Merci beaucoup pour votre appel. On prend tout de suite la direction du Gabon. On retrouve en ligne Ruth, bonjour.
Oui, bonjour, madame.
Vous avez 51 ans. Alors, vous, ce sont des maux de tête tenaces, intenses. Ça remonte à quand?
Ben, ça remonte depuis que l'âge de 13 ans.
Oui, mais vers l'adolescence. Vous pouvez décrire ces douleurs, leur localisation?
Ben, leur localisation, surtout au niveau des tempes.
Oui.
Au niveau des tempes, deux fois au niveau du front, l'arrière des oreilles. Mmh. Une fois, on m'a parlé du nerf numéro 5. Je ne sais pas trop ce que c'est, en tout cas. Ça va jusqu'à la sensibilité au niveau des cheveux. Mmh. J'ai du mal à peigner mes cheveux. J'ai l'impression d'avoir de l'électricité.
L'électricité voilà. Dans la tête. Est-ce que vous disiez 12-13 ans, est-ce que ça veut dire que ces règles, elles sont apparues à partir du moment où vous avez été menstruée, où vous avez eu vos règles?
Non, elles viennent un peu avant.
Un peu avant.
Parce que j'ai eu mes menstrues à 13 ans.
13 ans, voilà. Donc juste avant. Est-ce que vous avez observé maintenant le retour de ces douleurs en fonction de votre cycle ou pas vraiment?
Il est. On sent que c'est souvent lié.
Oui.
Mais ça peut être un peu avant les menstrues. Des fois c'est pendant, des fois c'est juste après, la période d'après. Et voilà quoi. Donc,
vous prenez des remèdes pour vous soulager, Ruth? Des cachets par exemple?
Oui, beaucoup d'antalgiques.
De quelle nature
des fois,
ces antalgiques?
Je prends du codoliprane.
Alors, codoliprane, ce qui est important, c'est le début du mot. Hein. Il y a co devant, ça veut dire codéiné. Donc, ce n'est pas du paracétamol anodin. C'est que dedans, il y a quand même un médicament très, très fort contre la douleur.
Oui.
Vous les prenez au long cours?
Quand c'est nécessaire.
Quand vous prenez, vous prenez combien de cachets?
Je prends juste ce qu'il faut, en fait. Hein. Sans jamais dépasser la dose, parce que si tu dépasses la dose aussi, c'est pas bon, en fait.
Bien sûr, mais vous en prenez sur combien de jours, s'il vous plaît?
En général, sur 2-3 jours, tant que la douleur est persistante, d'accord, en fait.
Et une fois que la douleur est partie, vous arrêtez, il n'y a pas de souci?
Oui, oui, il n'y a pas de souci.
D'accord. Vous avez consulté pour ça? Vous avez posé des questions à des médecins?
On posait des questions, mais comme c'est... Souvent, ça va justement arriver pendant les périodes de menstruation, on va dire, c'est lié... On va te dire, il faut justement prendre les cachets un peu avant les menstrues pour éviter justement d'avoir toutes ces douleurs-là.
Vous dites, on va se dire, mais vous avez posé la question à un médecin ou c'est ce que vous vous donnez comme interprétation à vous-même?
Non. J'ai posé la question au médecin. Je suis plutôt très présente à l'hôpital.
Ouais.
Même si ces dernières années, j'essaie de ne pas trop y aller. Mais ouais. Bon, voilà.
Donc vous n'avez pas eu les réponses pour vous soulager, en gros, hein?
Non, pas franchement, parce que... Comme vous disiez, j'ai suivi votre émission un peu avant, là.
Ouais.
La douleur, à un moment donné, on est un peu orphelin dans ça, parce que comme ça, tu ne vois pas toujours.
Mmh. Et ces douleurs au niveau de la tête, est-ce qu'elles s'étendent, on va dire en quelque sorte, dans d'autres parties de votre corps?
Dans les douleurs de la tête, je ne sais pas si je peux les lier, parce que comme je disais à la dame avec qui je me suis entretenue, des fois, j'ai mal... au bas du dos, au bas du dos ou au bas ventre, des fois c'est en même temps, mais des fois c'est isolé. Donc je ne peux pas trop savoir si c'est vraiment lié, mais moi ce que je voudrais comprendre, c'est pourquoi ce lien-là, en général, entre les périodes de menstrues et avec ces douleurs de...
Douleurs de femme, on entend bien, docteur Rana Ivosson, qu'est-ce que vous pouvez répondre à Ruth?
Alors déjà rapidement, parce que c'est compliqué je vous avais dit tout à l'heure qu'il y a des facteurs d'entretien, des antécédents de vie, en général vous avez ce qu'on appelle des céphalées chroniques, voilà, je ne sais pas si c'est tous les jours, mais des céphalées chroniques, ça peut être de plusieurs origines, ça peut être, il y a souvent des origines musculaires. Qu'est-ce que vous faites comme travail, Ruth?
Je suis plutôt administrative, je suis plutôt assise à longueur de journée.
Et devant l'ordinateur?
Oui.
Voilà, hein, parce qu'il y a des facteurs d'entretien, hein, c'est hyper important, parce que les contractures des muscles cervicaux, la mauvaise posture, entraînent des céphalées qu'on appelle des céphalées de tension, hein, d'accord? Donc c'est hyper important de faire attention à cela, et le traitement c'est vraiment détendre les muscles cervicaux, hein. Je ne sais pas si vous avez la possibilité, sinon vous allez sur internet, vous regardez des tuteurs, vous faites des exercices d'étirement des muscles cervicaux, hein.
C'est hyper important. On entend souvent, il ne faut pas rester des heures complètement bloqué devant l'écran. Oui. Ça, c'est important.
Ça, c'est
simple,
vraiment,
mais important.
Oui, et ça, c'est comme je vous expliquais tout à l'heure, hein, une douleur qui dure va vraiment avoir tendance à être se chroniciser par une sensibilisation. Hein. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que vous avez ces douleurs qui apparaissent ailleurs, parce que vous êtes sensibilisé, donc une dilatation gazeuse qui ne fera rien du tout, vous fera des douleurs abdominales, par exemple. Hein. Donc, pareil dans le dos. Et puis, l'histoire des menstruations, oui, c'est connu. Hein, quand, pendant les règles, on a une chute de l'œstrogène. Et l'œstrogène a une activité anti-inflammatoire. Hein. Donc c'est pour ça que on a des douleurs au moment des règles.
Donc c'est rassurant. Ruth, vous n'êtes pas bizarre, vous êtes normale, mais douloureuse, normal. Avec des solutions.
C'est rassurant.
On vous souhaite une... Ben voilà, déjà vous souriez, c'est déjà une première guérison. Très très bonne journée à vous, Ruth.
Priorité santé. Parce que la santé est la priorité de tout le monde.
Sur RFI.
Et c'est à Kinshasa qu'on vous retrouve, Glody, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, en ligne de RDC, vos douleurs, vous, elles sont localisées dans quelle zone de votre corps?
Oui, quand ça a débuté, c'était un peu d'abord au niveau de cheville, et puis avec le temps, ça a pu évoluer jusqu'au niveau des jambes et jusqu'au niveau de la cage thoracique, au niveau des côtes, donc c'est un peu ça.
Donc vous, par rapport à ces douleurs, vous avez eu un diagnostic, hein?
Oui, bien sûr. Pour l'année 2023, j'ai été diagnostiqué d'une ostéomalacie.
Alors, je me retourne vers le médecin, docteur Rana Ivosson. Ostéomalacie, pour en quelques mots, c'est quoi?
En fait, c'est une fragilité de l'os qui est due à un déficit de vitamine D. Donc, l'os est moins minéralisé, donc il est fragilisé. Et c'est de là, c'est ça, c'est ce qui est responsable de la douleur. Hein. L'ostéomalacie, ça se donne des douleurs diffuses. Hein.
Glody, quand vous étiez petit, il y a eu des problèmes de malnutrition, de difficultés d'accès à l'alimentation chez vous ou pas?
Non, il n'y a rien eu de tel.
Il n'y a rien eu de tel. Qu'est-ce qu'ils font les médecins pour vous soulager aujourd'hui?
Aujourd'hui, ils continuent avec des recherches. Je dis que comment je peux dire, vu que les premiers traitements qui consistaient juste à l'administration des vitamines D et du calcium n'a pas marché.
Oui.
Alors, ils sont en train de continuer avec les recherches pour en trouver la cause et voir ce qu'il faudrait pour...
Alors, rechercher la cause en faisant des examens, ils vous ont prescrit quoi comme examen de santé?
Le prochain examen que je dois faire normalement, c'est une scintigraphie osseuse.
Et ça, c'est possible de le faire sur la place de Kinshasa?
Jusqu'à là, non.
Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de rendez-vous ou parce qu'il n'y a pas le plateau technique?
Oui, c'est le problème. C'est un problème technique en rapport avec la machine, mais on demande de patienter. Voilà, jusqu'à là, en tout cas, il n'y a pas de solution par rapport à ça, mais on continue de patienter.
Et votre question, Glody, à notre spécialiste à l'écoute, c'est quoi?
Voilà, vu qu'il y a eu une prise des antidouleurs à long terme depuis que ça a commencé, alors j'aimerais demander, la première question, c'est savoir si une prise des antidouleurs à long terme est nocif, parce que là, je commençais à sentir à un moment donné comme si mon corps s'habitue aux antidouleurs et ça fait plus vraiment effet. Et deuxièmement, si augmenter la dose des antidouleurs, à chaque fois qu'on sent aussi la douleur s'est décuplée, est-ce que c'est un problème?
C'est quoi aujourd'hui vos antidouleurs, Glody?
Ben, aujourd'hui, je prends du Voltaren. Je prends du Voltaren et un autre, je ne maîtrise pas trop le nom, mais... je prends quand même souvent lorsque ça dérange, malgré que je prends plus régulièrement.
Voltaren, c'est pas forcément un antidouleur, hein, docteur. C'est pas un anti-inflammatoire.
Alors, le Voltaren, c'est un anti-inflammatoire. Ça peut agir au niveau des douleurs d'origine inflammatoire. Quand il y a une inflammation, les substances inflammatoires vont activer les récepteurs des nerfs, donc provoquer la douleur. Donc, ce n'est pas forcément un traitement, d'autant plus que c'est dangereux de prendre ça au long cours, parce que ça peut donner des effets secondaires au niveau gastrique, au niveau rénal. Juste avant c'est important quand dans votre dossier, vous avez parlé de baisse du taux de phosphore. Ça, c'est hyper important de revoir ça avec votre médecin, peut-être supplémenter, comprendre à quoi c'est dû, parce qu'une baisse de phosphore peut en lui-même être responsable des douleurs. Et de la fragilisation des os. Et je vois aussi que vous ne bougez plus trop, vous avez grossi. Et là, je vous invite vraiment, vraiment à revoir à ce niveau-là. Il faut bouger. Je vous avais dit tout à l'heure que quand on ne bouge pas, les muscles contractent. Faire des choses que vous aimez de manière à aider votre cerveau.
Bien sûr, très important. Si c'est douloureux, ça ne veut pas dire faire une activité intense, mais rebouger, se remettre en mouvement, ça c'est très très important. Bon courage en tout cas pour vous, Glody. Cette prise régulière d'antalgique, effectivement, la réponse est oui, ça a des conséquences sur la santé à long terme. Donc il faut retourner consulter pour trouver des pistes de soulagement tant que l'examen de santé n'est pas possible. En tout cas, bon courage à vous. On part pour la Côte d'Ivoire.
RFI à Abidjan, 97.6 FM.
Pour donner la parole à une autre spécialiste de la douleur, professeur Constance Yapo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes neurologue, bonjour, neuropédiatre au CHU de Cocody à Abidjan, aussi maître de conférence agrégé à l'UFR Sciences Médicales. Votre spécialité, la neurologie, avec, j'imagine, une approche tout à fait comparable à celle que vient de décrire votre consoeur. Chez vous, les patients arrivent dans votre service au CHU avec quelle plainte, avec quelle demande?
Alors, généralement, les patients arrivent pour des plaintes qui peuvent concerner la tête, donc le céphalée chronique. Avec en avant souvent comme diagnostic une migraine ou une céphalée de tension. Mais il y a aussi qui peuvent se plaindre de douleurs au niveau des bras, donc qui vont nous faire déboucher sur une névralgie cervico-brachiale consécutive à une hernie discale en général, ou dans une faible proportion liée à des traumatismes.
Donc j'imagine qu'il y a toute la partie d'échange avec les patients qui est essentielle. Est-ce que vous leur demandez aussi des examens complémentaires à vos patients?
Tout à fait.
Est-ce que ça constitue un frein pour eux? Parce qu'on sait les difficultés associées à ces examens, tant sur le plan financier que la prise de rendez-vous. C'est comment pour vous?
C'est dans les mêmes proportions, on va dire, parce qu'en général, il y a un délai. Du fait mauvaise, on va dire, répartition des examens. Mm-hmm. Parfois, on n'a pas de disponibilité dans l'immédiat, donc ça diffère un peu les résultats. Mais en général, ils arrivent à pouvoir réaliser ces examens complémentaires.
Et est-ce que vous constatez que vos patients, ils arrivent assez tard en consultation, par exemple en ayant eu des recours traditionnels pour soulager leur douleur ?
Bien sûr. On a généralement un délai minimum de 3 à 6 mois, mais parfois ça peut s'étendre au-delà d'une année avant qu'ils viennent consulter avec un spécialiste, notamment un neurologue dans notre contexte de travail.
Est-ce que souvent même, ils ont pris des antalgiques, des antidouleurs, sans consultation de leur propre chef, en automédication, et constatent aujourd'hui que ces antidouleurs, ils ne fonctionnent plus ?
Bien sûr, ça arrive, et c'est assez fréquent.
Dans ce cas-là, j'imagine qu'il y a un travail d'explication. Qu'est-ce que vous leur dites ?
Déjà, c'est de pouvoir bien analyser le type de douleur et leur expliquer déjà pourquoi le médicament n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui devrait être fait après en fonction du diagnostic qui aura été posé.
Et vous aussi, dans votre service, vous avez une approche multidisciplinaire, c'est-à-dire que, bien sûr, il y a des neurologues qui travaillent, mais pas seulement, j'imagine qu'il y a d'autres praticiens.
Tout à fait. On peut avoir recours aux médecins de la médecine physique et réadaptation pour faire des séances de kinésithérapie, de physiothérapie sédative. On peut avoir recours à des psychologues parce qu'il y a une dimension quand même psychologique assez prononcée dans ce contexte. Et donc, on peut avoir recours à eux. Dans certains cas, on peut avoir recours aux neurochirurgiens s'il y a besoin de faire une intervention. En tout cas, la prise en charge est multidisciplinaire et assez globale.
Professeur Yapo, dernière question sur des exemples de, justement, de prise en charge qui fonctionnent pour justement inciter les auditrices, les auditeurs qui nous écoutent à consulter ce genre de spécialiste en se disant, certains disent, on n'y peut plus rien, ma douleur, ça, c'est là depuis tellement longtemps, c'est insupportable, pour leur dire au contraire, allez-y, allez parler de votre douleur. Qu'est-ce que vous avez envie de faire passer comme message ?
C'est de les rassurer. Il existe des canaux de prise en charge. Il faut surtout accentuer sur la sensibilisation et bien leur expliquer de quoi ils souffrent, être empathique pour leur faire comprendre qu'ils seront accompagnés et que la prise en charge dépend bien évidemment de chacun en fonction de sa sensibilité, en fonction de son profil clinique. Mais dans tous les cas, l'empathie surtout pour qu'ils se sentent véritablement accompagnés, c'est notre leitmotiv.
Merci beaucoup, professeur Constance Yapo. J'imagine que vous êtes tout à fait d'accord avec cette conclusion. Docteur Rana Ivosson, c'est d'abord de l'écoute, c'est vraiment ce qu'il faut.
Absolument.
Quand on est face à un patient douloureux.
Absolument.
Et cette écoute, elle prend forcément du temps.
Oui, parce que en fait, par exemple, une première consultation de douleur dure au minimum une heure.
Donc, c'est quelque chose pour
c'est
lequel il faut se préparer.
Oui.
Et après, un suivi, un échange. Mais le soulagement, il est vraiment là.
Oui.
Et les patients vous le disent, j'imagine.
Les patients, en fait, dès que les patients ont l'explication de leur douleur, pourquoi ils sont là, il y a déjà un changement. Il y a une lueur d'espoir.
Et l'espoir, ça compte pour se guérir et pour aller mieux, en tout cas. Un grand merci à vous, docteur Lola Rani-Vosson, pour toutes ces explications. On va parler santé pédiatrique dans quelques instants. On va se rendre au Maroc, juste après Prince, avec Free sur RFI.
One, two.
C'est la première édition de la Coupe du Monde de simulation pédiatrique. Ça se passe à Marrakech, au Maroc, du 3 au 6 juillet. Et vous en êtes l'initiatrice, la présidente, professeure Nadia El-Idrissi-Slitine. Bonjour.
Bonjour, madame.
Vous êtes spécialiste en cardiologie pédiatrique, en néonatologie, donc à Marrakech, directrice du centre de simulation à la fac de médecine et de pharmacie. Alors, c'est une première pour vous au Maroc. C'est un événement inédit, tout simplement. Expliquez-nous déjà, parce que ça mérite vraiment une petite explication, c'est quoi la simulation pédiatrique ?
Alors, la simulation pédiatrique, c'est tout simplement, on met les pédiatres dans une situation qu'ils vont rencontrer dans leur pratique médicale devant un enfant. Tout simplement, au lieu d'un enfant, on a un mannequin qui remplace l'enfant. Et la simulation, elle a un principe éthique qui est très important, c'est jamais la première fois sur un malade. Et donc, il est complètement inacceptable actuellement de nos jours de s'entraîner directement sur un malade réel, mais en fait, on améliore notre procédure et on s'entraîne sur un mannequin et on améliore vraiment nos gestes avant de toucher à un patient réel.
Une formation en situation, ça veut dire qu'il y a un mentor qui surveille ou qu'on est un petit peu comme ça jeté dans le bain? Comment ça se passe? Il y a une supervision?
Oui, il y a une supervision. En fait, pour les résidents, ils sont censés avoir été déjà en face de ces situations. Et donc, on voit comment ils réagissent, on voit comment ils managent. Bien entendu, il y a toujours une supervision et il y a une évaluation ou ce qu'on appelle nous une rétroaction, un feedback. Mmh. Et après, cette rétroaction, ça permet d'améliorer leur pratique et d'améliorer leur courbe d'apprentissage.
Alors,
c'est vraiment fantastique.
On comprend la simulation. Est-ce qu'il y a tous les corps de métier de soignants dans cette forme de compétition ou est-ce qu'il y a uniquement les médecins ou les internes?
Alors, il y a les étudiants, il y a un volet pour les étudiants et un autre volet pour les résidents. Mmh. Bien entendu, dans une équipe, comme on travaille d'une façon pluridisciplinaire, il y a une personne qui va se charger du volet infirmière, comme vous. La simulation, c'est avant tout un travail d'équipe et on ne peut pas enlever, bien entendu, le personnel soignant infirmier ou kinésithérapeute qui peut aussi participer donc à la prise en charge du malade.
On va bien comprendre les articulations entre les différentes compétences. On comprend bien avec les enfants, il y a des obstacles éthiques, psychologiques. Est-ce que ça veut dire que la simulation pédiatrique, elle aurait d'ailleurs encore plus sa place qu'une simulation de situation d'urgence, qu'une simulation en gastro-entérologie, par exemple?
J'ai bien peur de ne pas...
En hiérarchisation par rapport aux questions éthiques, de pouvoir simplement interagir avec l'anatomie, le corps, le psychisme des enfants.
Bien entendu, la simulation, elle a sa grande valeur en éthique. Et puis, c'est vrai que quand on est devant un enfant, on a devant nous un enfant, on a devant nous des parents. Et c'est pour cela que la simulation, elle nous aide vraiment à gérer les deux composantes, voire les trois composantes. Donc, c'est vraiment sa place. Elle a une grande place pour améliorer le travail, la communication avec le patient, avec le petit enfant, avec ses parents, chose qui est parfois très très difficile, et surtout aussi avec le personnel qui nous entoure, avec qui on communique, avec qui on travaille coude à coude.
On comprend bien l'importance de la communication. Alors on revient à la compétition, cette Coupe du Monde. Combien de pays vont être représentés à Marrakech ?
Alors nous allons avoir une représentativité de 3 continents, l'Europe, donc nous allons avoir la France, l'Espagne et la Suisse, et puis en Asie nous allons avoir la région MENA représentée par l'Arabie Saoudite, et ensuite en Afrique nous allons avoir, en plus du Maroc bien sûr, le pays accueillant, le Sénégal, la Mauritanie, la Tunisie et le Mali.
Chacun vient avec ses propres usages, ses propres façons de faire, et on peut imaginer aussi les capacités en termes de plateau technique. Est-ce que vous avez déjà des idées sur ce qui va se passer ou tout est à découvrir ?
Oui, c'est le grand secret, c'est la grande surprise. Nous allons avoir un petit peu des spécialités qui touchent, en fait, des domaines qui touchent à toutes les spécialités de l'enfant. Et ce qui est vraiment fantastique, c'est que nous avons une confrontation de tous les pays avec les différentes expertises. Chacun vient enrichir par son expertise. Il n'y a pas de pays plus développé que l'autre. Il n'y a que des échanges d'informations, d'expertise. Et tout cela se passera dans une ambiance bienveillante.
Et vous avez été donc l'organisatrice. Est-ce que vous avez été en quelque sorte aussi la coach? Comment est-ce que vous avez préparé l'équipe des pédiatres marocains?
Alors, oui, j'étais un coach en donnant, si on veut, en donnant déjà, en faisant l'appel à tous les pédiatres marocains pour qu'ils se joignent à nous. Et heureusement, on a eu vraiment... un grand engouement pour cette compétition. J'ai également, dès que j'ai touché les pays du monde, tout le monde voulait venir. Il y avait juste un petit obstacle par rapport au délai qui était vraiment très très court pour venir. C'est pour ça qu'on aurait pu avoir une plus grande représentativité. Pour les équipes marocaines, on les a préparées, on a fait des briefings, on a fait des réunions en ligne, donc on a essayé vraiment de les mettre à l'aise, et aussi pour les équipes étrangères. Donc on a vraiment préparé les équipes étrangères et marocaines de la même façon. Bien entendu, l'équipe locale de Marrakech est préparée d'une façon assez spécialisée. C'est normal, nous sommes à Marrakech et nous faisons beaucoup de simulations depuis... beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps.
Dans cette ville, et quelle magnifique ville. Merci beaucoup. Cette simulation pédiatrique, la première du genre, c'est du 3 au 6 juillet, chez vous au Maroc. Merci beaucoup, professeur Slitine. Priorité santé, c'est fini. Merci à toute l'équipe. Demain, pour toute la durée de l'émission, vous retrouverez en direct la sexologue de Priorité santé, Noël Kayarsi. Thème du jour, sexualité à distance et retrouvailles. Beaucoup à dire, beaucoup de questions au 33 7 65 18 46 41. On vous retrouve bien sûr demain, 9h10, temps universel. D'ici là, restez avec nous.
C'était Priorité Santé avec Sunwa Assurance, et soyez couverts en cas de maladie, de perte ou de vol de bagages durant vos voyages.